Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Plan B. Je m'appelle Roxane et je suis votre hôte durant la prochaine heure en compagnie de Monsieur TK, un youtubeur crypto. Grâce à lui, vous allez découvrir ce qu'est le concept de minage, mais promis, il n'y aura pas trop de jargon. Let's go! Bonjour Monsieur TK, un grand merci d'avoir accepté cette interview qui est en réalité la seconde interview que je fais de toi. La première avait lieu il y a déjà quelques années, si je me souviens bien, c'était en 2017, au tout début où tu as commencé à devenir un créateur de contenu, parce qu'en fait tu es youtubeur crypto et plus précisément dans tout ce qui est minage et masternode. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi et te présenter à nos auditeurs ?
Eh bien oui, d'abord bonjour Roxane. Effectivement, un grand merci à toi pour me proposer cette interview et c'est vraiment comme toujours un plaisir de participer à ce genre de choses. Alors, me concernant, je suis tombé dans l'univers des crypto-monnaies en 2016. Et en fait, je me suis rapidement intéressé à ce milieu-là parce que je cherchais un moyen, comme beaucoup de personnes à l'époque, de gagner un petit peu d'argent sur le côté. Le but n'était pas de devenir millionnaire, mais tout simplement d'avoir un petit à côté. Et en fait, me passionnant pour l'univers des crypto-monnaies, j'ai découvert qu'il existait une possibilité pour obtenir des crypto-monnaies entre gros guillemets gratuitement, c'était de faire tourner sa machine pour faire des calculs très compliqués. Donc sa machine, c'est son ordinateur. Et en échange de cette opération, on pouvait être récompensé en crypto-monnaie. Et alors, en fait, tout ce que je viens d'expliquer ici, c'est dans le jargon des crypto-monnaies, ça s'appelle le minage. Et en fait, plutôt que d'acheter directement des crypto-monnaies au tout début, parce que j'avais pas trop envie d'envoyer de l'argent sur des plateformes qui sont parfois un petit peu obscures, pas en Europe ou autre, j'ai préféré utiliser mon PC parce que j'ai un bon PC à la maison pour générer mes toutes premières crypto-monnaies. Et en fait, j'ai rapidement vu que ça fonctionnait et que ça fonctionnait même très bien. Et je me suis un peu pris au jeu et vu que je suis un peu passionné d'informatique et que j'ai toujours aimé ça, je me suis vraiment plongé dans l'univers des crypto-monnaies avec le côté plutôt minage, donc le calcul réalisé par un ordinateur pour obtenir des crypto-monnaies. Alors, faut penser que pourquoi est-ce qu'on utilise un PC pour faire des calculs très compliqués ? C'est tout simplement parce que c'est de cette façon que fonctionnent la plupart des crypto-monnaies. Elles ont un intérêt à fonctionner de cette façon-là. Pour expliquer de façon simple, en réalité, les calculs qui sont réalisés par l'ordinateur servent à sécuriser le réseau, donc le réseau des crypto-monnaies, et à faire que celui-ci ne puisse pas être attaqué par des voleurs, des hackers ou autres. Alors, je rentre pas dans les détails parce que c'est très compliqué et ça n'intéressera pas les gens, mais en gros, en faisant tourner votre machine, vous pouvez sécuriser le réseau et empêcher que celui-ci soit attaqué. Et comme vous fournissez un service au réseau, en échange, celui-ci vous paye entre guillemets en crypto-monnaie pour le service rendu. Et c'est de cette manière-là que vous pouvez obtenir des crypto-monnaies à l'aide d'un ordinateur.
Merci pour cette explication hyper pédagogique. J'ai bien tout compris et je suis certaine que tout le monde qui nous écoute et qui n'avait pas la moindre idée de qu'est-ce que pouvait être le minage a du coup compris en quoi ça consiste aujourd'hui. Alors, tu me dis qu'en 2016, tu avais envie de mettre un peu de beurre dans tes épinards et donc de gagner un peu d'argent gratuitement. Du coup, tu as miné du Bitcoin ?
Alors non, justement, malheureusement pour moi, je suis arrivé entre guillemets un peu tard. Donc, il faut savoir que le Bitcoin est présent depuis 2008-2009 et en 2016, celui-ci était déjà très très bien implanté. Et en fait, les machines nécessaires justement pour miner du Bitcoin sont devenues très sophistiquées et très puissantes. Et en fait, un simple ordinateur ne pouvait plus le faire. Donc, moi, j'ai dû me tourner vers une autre crypto-monnaie qui est actuellement la crypto-monnaie numéro 2 sur le marché, qui s'appelle Ethereum ou abrégé Ether. Et en fait, l'avantage de l'Ethereum, c'est que celui-ci est resté accessible aux petites configurations. Alors, il faut toujours quand même avoir un PC plutôt costaud. On ne peut pas faire ça avec un PC portable ou le PC de sa grand-mère. Il faut quand même un PC plutôt récent. Mais par contre, ça reste encore accessible à monsieur et madame tout le monde. Il est effectivement possible d'obtenir… Alors, avec une seule machine, ça prendra beaucoup de temps parce que forcément, il y a une… comment dire, un côté puissance nécessaire à mettre en considération. Mais il est possible effectivement de miner la deuxième plus grosse crypto-monnaie au monde actuellement à l'aide encore d'un PC, d'un PC de type PC que les joueurs utilisent pour jouer aux jeux vidéo ou autre.
Et du coup, à quoi ressemble une de tes journées type ? Est-ce que ça prend beaucoup de place dans ta vie, le fait d'être un mineur ?
Alors, à mon niveau, puisque moi, je me suis vraiment passionné pour ça et je veux dire, j'en ai vraiment fait une passion. Comme toute passion, ça prend énormément de temps. Et puis, moi, c'est ce temps-là que je consacre au minage, c'est pas du tout un... C'est pas du tout une contrainte, c'est même un plaisir. Maintenant, faut savoir que moi, on va dire que je fais partie de ceux qui sont mordus de ça et donc qui sont vraiment à fond dedans et où ça demande entre guillemets pas mal de temps. Maintenant, il faut savoir que une fois que la machine est lancée et configurée, donc l'ordinateur est configuré pour miner. Hormis une surveillance, je vais dire une petite surveillance de temps en temps pour voir si tout fonctionne toujours correctement, c'est plutôt un travail, en tout cas pour la machine c'est un gros travail, mais pour la personne en elle-même c'est plutôt reposant, j'ai envie de dire, puisque hormis la surveillance, moi de mon côté par exemple je fais une surveillance le matin au réveil, une fois aux alentours de midi pour voir si tout est toujours opérationnel, et une fois le soir avant d'aller dormir, et puis ça tourne toute la nuit, et le lendemain de nouveau, c'est le côté routine. Il y a uniquement là où ça demande un peu de travail, c'est effectivement quand au début on doit décider comment est-ce qu'on va miner, comment configurer la machine, comment configurer les différentes étapes. Ça peut demander beaucoup de temps, notamment si, ça on en parlera plus tard, mais notamment si on construit soi-même sa machine pour miner, puisque comme on l'a expliqué, donc on peut utiliser un simple ordinateur hein, qui fait très bien l'affaire, mais comme on en parlait juste avant, un simple ordinateur, c'est sympa, ça permet de faire ses premiers pas, mais ça reste pas non plus, c'est pas un bolide de course, on va dire. Et alors, il y a toujours la possibilité, alors à part après, de monter des machines spécialement dédiées à cette activité. Mais alors là, ben voilà, alors on passe dans quelque chose de plus, entre guillemets, un peu plus compliqué, un peu plus professionnel, qui demande à ce moment-là un peu plus de temps.
Et du coup, comme tu es mordu, tu as eu envie de partager tout ton cheminement sur une chaîne YouTube, c'est bien ça ?
Exactement. Donc en fait, faut savoir que quand je me suis lancé, en 2016-2017, le minage était déjà bien implanté dans l'univers crypto. Hein, c'est quelque chose qui existe depuis les débuts du Bitcoin. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était très confus et souvent expliqué uniquement en anglais. Il y avait quasiment pas d'informations à ce sujet-là sur le net. Et en fait, il fallait être un peu débrouillard. C'est vrai que par rapport, donc aujourd'hui, on est quasiment en 2021. Hein, on est en 2020, mais quasiment en 2021. Et de nos jours, le minage s'est beaucoup, beaucoup simplifié. Il y a beaucoup de choses qui ont été automatisées, beaucoup de choses qui ont été faites justement pour que les débutants aient plus facile. Mais il faut savoir que moi, quand je me suis lancé, alors c'était pas comme au tout début, hein, 2009, où c'était vraiment très, très complexe. Il y avait déjà eu un gros travail de dégrossissement qui avait été fait, mais ça restait très complexe quand même. Il fallait quand même s'y connaître en informatique, il fallait quand même être un peu bidouilleur. Et surtout, il fallait bien gérer l'anglais parce qu'il y avait quasiment que des informations en anglais, très peu d'informations en français. Et en fait, j'ai rapidement vu et compris que généralement, les gens étaient demandeurs d'avoir ce genre d'informations, d'explications, de détails, de questions, de résolution de problèmes en français, parce que c'est vrai que le niveau francophone à ce moment-là n'était pas très développé. Et donc, je me suis dit, moi étant plutôt, entre guillemets, bon vulgarisateur, en tout cas, je le suis devenu à l'aide de cette chaîne, eh bien, je me suis dit, je vais essayer d'aider et de guider les gens pour se lancer dans le minage, un peu comme je l'ai fait moi, mais avec justement non plus toutes les contraintes avec les termes techniques en anglais, mais plutôt quelque chose de très accessible, enfin plus accessible plutôt en français pour aider, entre guillemets, une personne qui n'a jamais fait de minage de sa vie, et ben en suivant quelques tutos que j'ai réalisés et quelques informations, en quelques heures, elle peut se mettre à miner et découvrir l'univers des crypto-monnaies par ce moyen-là.
Par ta facilité à vulgariser tous ces sujets complexes, aujourd'hui, tu as réuni une communauté de près de 10 000 personnes sur YouTube. Est-ce que ça a un impact dans ta vie quotidienne ?
Alors oui, là, c'est sûr que au début, quand j'ai commencé mes vidéos, premièrement, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde aussi rapidement. Parce que comme je le dis toujours, l'univers déjà des crypto-monnaies est très, très petit. plus encore quand on s'intéresse uniquement au côté francophone, c'est encore plus petit. Et alors, aller chercher le côté minage, parce que ce qui intéresse souvent les gens dans la crypto-monnaie, c'est le côté un peu trader, le trading, ce côté-là. C'est vrai que quand on vous dit, on vous parle de machine, d'ordinateur, alors que c'est la base de fonctionnement des crypto-monnaies, c'est ça qui est le plus important, c'est que sans les machines, ce ne serait rien. Je ne m'attendais pas du tout à avoir autant de monde qui s'intéresse à ça, autant de visibilité que ça intéresse. C'est ça où je suis le plus impressionné, c'est quand je regarde un peu, enfin, en tout cas que je discute avec les gens de ma communauté, ça va aussi bien du jeune de 15 ans qui a envie de se faire un petit peu d'argent de poche sur le côté, que le patron de société qui a 55 ans, qui a une société sur laquelle il a installé des panneaux solaires, très grosse quantité de panneaux solaires, et qui lui se décide peut-être de diversifier son activité en installant par exemple des machines de minage dans ses entrepôts pour profiter de l'électricité qu'il produit. Et donc c'est vrai que c'était quelque chose où je m'attendais vraiment pas à ça. Et la communauté, c'est ça que j'aime beaucoup avec la communauté. Enfin, je pense que chaque YouTuber dira toujours ça de sa communauté, mais je trouve que j'ai une communauté très bienveillante où les gens sont vraiment dans l'entraide, veulent vraiment aider les nouveaux, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que, comme je le dis depuis mes toutes premières vidéos, c'était un peu mon leitmotiv au début quand je me suis lancé, c'était de dire qu'en fait, on est tous, entre guillemets, donc toutes les personnes qui s'intéressent au monde du minage dans l'univers des crypto-monnaies, on est tous dans un même bateau. Et si on veut aller plus loin, eh bien, il vaut mieux qu'on rame tous dans le même sens plutôt que de se tirer dans les pattes et d'essayer d'être le meilleur dans son domaine. Et au final, j'ai remarqué qu'au niveau de la communauté, c'est vraiment ce qui s'est formé. On a eu des personnes qui sont arrivées, qui ont formé des nouveaux. Moi, j'ai continué à donner des conseils, etc., etc. Et au final, c'est ça qui est bien maintenant, c'est que j'ai envie de dire que la communauté tourne, entre guillemets, quasiment toute seule. Ça veut dire que maintenant, si vous avez un nouveau qui arrive et qui débarque et qui pose une question, si c'est pas moi qui y réponds, il y aura toujours bien une personne plus ancienne ou qui de son côté est déjà à un très gros niveau dans le minage, qui se prendra un plaisir de répondre, et toujours, ben voilà, toujours sans demander d'argent. Donc il y a pas du tout de vente ou autre derrière. C'est vraiment quelque chose de bienveillant et de bénévole.
À un niveau plus personnel, tu vois, le fait d'être rentré dans le monde des crypto-monnaies, d'être devenu YouTuber, d'avoir, de faire du minage au quotidien, qu'est-ce que ça change par rapport à ta vie d'avant ?
Déjà, les gens n'ont plus du tout le même regard sur toi. Tu passes un petit peu pour un ovni. Déjà, le côté YouTube, les gens, même les amis. Enfin, en tout cas, quand on dit qu'on va se lancer sur YouTube, au début, tout le monde a un petit peu ce côté moqueur, parce que c'est bonne guerre, j'ai envie de dire, parce que quand on commence sur YouTube, je connais pas grand monde qui soit directement super à l'aise devant une caméra avec un texte à réciter et autres. Donc, c'est vrai que quand on regarde nos premières vidéos, on se dit qu'il fallait beaucoup de courage aux premières personnes qui nous ont suivis. Mais non, c'est sûr qu'avec 10 000, entre guillemets, 10 000 personnes qui nous suivent et qui nous suivent sur les différents réseaux, qui ont d'éventuelles questions, etc., c'est vrai que le téléphone, entre guillemets, sonne très souvent au niveau des notifications, parce qu'on a toujours bien, à un moment donné, ça peut être une question, une résolution de problème, mais également aussi pas mal de messages d'encouragement, de félicitations. Et ça fait extrêmement plaisir, parce que savoir que le travail que l'on produit est reconnu et intéresse des gens, c'est extrêmement gratifiant. Et au niveau vraiment personnel, je veux dire vraiment dans la vie de tous les jours, c'est vrai que maintenant, on sait que, enfin, je sais en tout cas que j'ai derrière moi des gens qui attendent, en tout cas qui sont friands de mes vidéos et qui en redemandent. Et donc, là où au départ je faisais ça un peu pour m'amuser quand j'avais le temps, etc., ici je suis passé sur un côté, je vais pas dire professionnel parce que c'est pas du tout le cas, mais on va dire semi-professionnel, où maintenant j'organise des plannings, j'organise des réunions, je planifie à l'avance mes vidéos, je tourne à l'avance des vidéos. Là où avant je faisais un peu ça, oh tiens, j'ai une heure devant moi, qu'est-ce que je ferais bien, oh bah tiens, je ferais bien une vidéo, ici j'ai plutôt un petit rituel journalier où je sais, le lundi il faut que j'écrive mon texte, le mardi il faut que je commence à l'apprendre, le mercredi tourner, enfin je fais toutes ces étapes là pour que généralement le samedi 13h on ait une vidéo qui soit montée, réalisées, ficelées, uploadées sur YouTube et qui soient prêtes à être visionnées par la communauté.
Et malgré tout, à côté de ça, tu as toujours ta vie de famille et ton travail.
Exactement, ouais. Non, donc là, je vais casser directement le mythe que beaucoup de personnes ont. Mais non, YouTube, en tout cas à mon niveau, donc 10 000 abonnés, YouTube, ça ne paye quasiment rien. Mais quand je dis quasiment rien, c'est vraiment rien. Il ne faut pas que les gens s'imaginent. Je dis pas les YouTubeurs avec des millions d'abonnés. À mon avis, là, oui, on peut gagner de l'argent. Moi, à mon niveau, ce que me rapporte YouTube, ça paye un resto, quoi. Donc, on est plutôt… Non, j'ai bien entendu conservé mon travail. Donc, j'ai un travail comme monsieur et madame tout le monde. Hein. Je fais 8 heures, 16 heures tous les jours. Et c'est vraiment sur mon temps libre, le temps avant où je passais à faire d'autres activités, c'est sur ce temps-là que je fais mes vidéos et que je m'occupe de ma chaîne et de mes différents réseaux sociaux.
Est-ce que tu penses qu'un jour, tu pourrais vivre de ton activité et YouTube, et minage, et influenceur crypto ?
Alors, honnêtement, je l'espère. Ça, ce serait mentir, parce que voilà, ce serait mentir que de dire que non, mais c'est sûr qu'à mon niveau, j'ai vraiment, en tout cas avec le fait de tourner des vidéos, le fait d'avoir YouTube et les différents réseaux, je me suis vraiment pris au jeu. C'est vraiment devenu une passion, comme je le disais en début d'interview. Et honnêtement, je saurais pour le moment, en tout cas, je ne sais plus m'en passer. C'est devenu limite comme une drogue. En tout cas, voilà, cette semaine, par exemple, je sors pas de vidéo. Je ne vais pas dire que je me sens mal, mais je me dis, ah, j'aurais peut-être dû un peu bosser pour sortir quand même quelque chose, parce que cette semaine, j'avais envie de me prendre une petite semaine de repos. Et au final, même en semaine de repos, je pense justement à YouTube, à ce que j'aurais pu écrire, ce que j'aurais pu tourner. Donc, c'est sûr que si demain, j'avais la possibilité d'en vivre à 100%, en tout cas, ou en combinant YouTube, le minage et autres, c'est sûr que si je pouvais en vivre et ne plus devoir travailler, entre guillemets, enfin le travail classique et ne plus vivre que de ma passion, c'est sûr que ce serait un bonheur pour moi parce que c'est vraiment devenu très très amusant. Maintenant et actuellement, en tout cas, si je voulais réussir, en tout cas sur ce côté-là, sur YouTube, il fallait pas choisir l'univers des crypto-monnaies qui pour le moment est encore vraiment un marché de niche très très spécifique. Il n'y a pas énormément de monde qui s'y intéresse encore. Je pense que si j'avais essayé de percer dans l'humour, le jeu vidéo ou autre, ça aurait été beaucoup plus rapide. Ce qui montre bien d'ailleurs que j'ai pas fait ça pour l'argent, parce que sinon il fallait vraiment choisir une autre vocation que la crypto-monnaie, en tout cas sur YouTube. Mais c'est sûr que si, imaginons demain, le Bitcoin devient quelque chose de grand public, on l'utilise quotidiennement, ainsi que d'autres crypto-monnaies, et que le monde entier se penche vraiment dessus et s'y intéresse. À ce moment-là, je pense qu'il y aura peut-être possibilité d'en vivre. D'en vivre bien, je ne pense pas, mais déjà d'en vivre, ce serait déjà pas mal. Et à ce moment-là, il sera toujours temps de faire le point, mais je pense que c'est pas demain la veille.
Tu publies sur YouTube où j'ai entendu que les cryptos étaient quand même assez bannis, donc ils ont fait plusieurs bans, de la censure. Est-ce que toi, tu as été victime de censure et est-ce que tu publies sur d'autres plateformes aussi ?
Alors en fait, non, moi j'ai eu de la chance, j'ai pas été touché par les bans, et pourtant c'est vrai que quand c'est arrivé, on a, enfin comme beaucoup, j'ai pris peur, parce que on a toujours peur que ça nous arrive, parce qu'il faut savoir que lorsqu'on se fait bannir de YouTube, en plus de perdre, je vais dire, l'accès à son compte, ce qui est très embêtant, on perd surtout toutes les vidéos qui ont été postées, etc. Donc moi j'ai gardé des copies de toutes mes vidéos sur mes disques durs à la maison, mais je connais des YouTubeurs qui n'avaient pas de copies de leurs vidéos, ce qui veut dire que dans leur cas où leurs vidéos ont été totalement supprimées, ils ont absolument perdu sur ce niveau-là. Donc moi je n'ai pas été impacté. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais plus petit à l'époque et que donc je n'intéressais pas le média YouTube, ou alors parce que je pense que ça a joué aussi. Les personnes qui ont été impactées étaient plutôt sur la partie trading, donc le trading, le fait d'être trader de crypto-monnaie. Et ça, je sais qu'à l'époque, YouTube l'a pas du tout apprécié, parce que YouTube a banni tout ce qui était trading, mais également jeu d'argent. Donc les personnes qui faisaient tout simplement des vidéos de poker en ligne, elles ont été aussi impactées par ce genre de choses. Et moi, avec le côté minage, donc plus, on va dire, entre guillemets, de la production, plus comme un travail, Je ne sais pas si ça a joué, mais en tout cas, moi, je n'ai pas été impacté et j'ai eu beaucoup de chance. À côté de cela, j'ai également mes vidéos qui sont sauvegardées sur une plateforme de crypto-monnaie, justement, qui s'appelle LBRY, Library, et qui, justement, étant basée sur le principe des crypto-monnaies avec, entre guillemets, son propre réseau, on va dire, celui-ci ne peut, entre guillemets, pas être censuré, puisque c'est là justement tout l'intérêt des crypto-monnaies, ce qui fait que si jamais je perdais ma chaîne YouTube, en plus d'avoir toutes les vidéos sauvegardées chez moi sur des disques durs, ce qui permettrait de les remettre en ligne ailleurs, j'ai également cette chaîne-là en backup, au cas où, ben voilà, si ça arrivait, je pourrais toujours quand même avoir une chaîne YouTube, enfin une chaîne, là ce serait une chaîne library et non plus YouTube, en sauvegarde, entre guillemets, au cas où.
Ok, tout ça c'est fort intéressant. Je ne savais pas trop pour les bans YouTube en fait. Je pensais que c'était vraiment contre les cryptos parce qu'ils avaient peur que les cryptos se démocratisent. Mais ici, j'ai un peu mieux compris que c'était aussi tout ce qui était jeu d'argent. C'est une bonne explication. J'ai appris quelque chose. Alors, je voulais aussi savoir, est-ce que tu as des petites anecdotes à raconter par rapport à ce monde depuis que tu as mis un pied dans les crypto-monnaies?
Alors oui, j'en ai une qui est plutôt sympa à ce niveau-là. C'est donc comme on l'expliquait, donc le minage, en gros, c'était le fait de faire tourner un ordinateur à la maison pour obtenir des crypto-monnaies. Et moi, de mon côté, en tout cas, pour simplifier, on va dire que j'ai monté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ordinateurs à la maison justement pour essayer d'avoir un maximum de crypto-monnaies. Et en fait, ce qui se passe, c'est que qui dit beaucoup d'ordinateurs dit beaucoup de, enfin, de la chauffe. Et quand on en a beaucoup, ça représente beaucoup de chauffe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ben voilà, ici on approche de l'hiver à grands pas. Il commence à bien faire froid dehors. Et le fait d'avoir toutes ces machines à la maison qui travaillent et qui chauffent, ça offre l'avantage qui fait très 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 agréable à la maison au niveau température intérieure. Je dois dire que ma compagne qui est un petit peu frileuse d'habitude et qui aime bien avoir bien chaud se réjouit entre guillemets qu'on arrive en hiver parce qu'avec toute la chaleur dégagée, ben ça lui permet de ne pas devoir mettre son plaid devant la TV le soir, tout simplement parce qu'il fait vraiment très agréable. C'est un peu moins agréable en été quand on a les fortes chaleurs, parce que voilà, ça c'est le contre-coup, hein, il faut quand même l'avouer. Mais en hiver, c'est vraiment très agréable et génial. Actuellement, par exemple, mon chauffage central n'est toujours pas redémarré. On se chauffe pour le moment uniquement grâce aux machines.
Mais donc, du coup, c'est pour ça que tu me disais que le minage n'était pas gratuit, c'est parce que ça chauffe et ça consomme pas mal d'électricité.
Oui, exactement. Donc forcément, c'est le contre-coup du minage, c'est pour ça. Donc le fait de dire gratuit, c'est tout simplement parce que vous n'allez pas devoir mettre directement de l'argent de votre poche. Maintenant, un ordinateur, ça reste un composant électrique, comme n'importe quel autre composant, comme le frigo, la machine à laver ou autre. Et effectivement, laisser tourner un ordinateur 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, bah, effectivement, ça provoque une consommation d'électricité. Et c'est entre autres pour ça que les mineurs sont payés, tout simplement parce que bah, d'un côté, vous avez dépensé de l'argent sous forme de votre facture électrique ici, et en contrepartie, bah, on vous paye pour le travail fourni et votre dépense énergétique.
Mais du coup, est-ce que tu n'aurais pas une petite anecdote aussi là-dessus? Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que tu as pu t'offrir un beau cadeau avec les crypto-monnaies que tu as récupérées du coup en minant?
Alors oui, ça c'est le bon côté de la chose, c'est que effectivement, sachant que les machines, en tout cas dans mon cas, m'ont rapporté plus d'argent que ce qu'elles n'en ont consommé, le ratio étant positif, ça veut dire que ce qui me reste à la fin, c'est des crypto-monnaies supplémentaires une fois que la facture d'électricité est couverte. Et donc avec ces crypto-monnaies-là, il y a une partie que j'ai bien entendu conservée parce que maintenant, je suis un fervent défenseur de l'univers des crypto-monnaies et j'y crois énormément. Mais par contre, il y a effectivement une petite partie que j'ai vendue contre des euros et ça m'a permis de m'offrir quelques petits cadeaux, notamment bah, le PC sur lequel on est en train d'enregistrer cette interview.
Et d'autres petits cadeaux. Ça m'intéresse.
Non, je me suis acheté pas mal de petites choses. Des fois, c'est des petites bricoles, hein, et aussi, ça permet de payer quelques petits extras lorsqu'on va au restaurant ou autre. Et parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, en tout cas, l'argent que cela générait, ça me permettait justement de monter d'autres ordinateurs. Parce qu'au départ, je n'ai fait que ça. L'argent que ça me faisait gagner était uniquement utilisé pour racheter d'autres machines.
Et tu me dis que désormais tu es un fervent défenseur des crypto-monnaies. Il y a peut-être des auditeurs là qui nous écoutent et qui n'y croient peut-être pas encore. Est-ce que tu pourrais nous partager pourquoi, là, après presque 5 ans, hein, si mes calculs sont bons, dans les crypto-monnaies au quotidien, dans ce monde-là, aujourd'hui tu peux affirmer que voilà, tu défends ça et tu penses que ça a de l'avenir?
Eh bien, pour de très nombreuses raisons. Premièrement, le fait que ce soit un modèle décentralisé. Donc là, encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop compliqué à expliquer rapidement. Mais en gros, ce qui est bien avec le. Alors, quand on parle de crypto-monnaie, on parle souvent du Bitcoin, mais c'est également valable pour les autres crypto-monnaies. C'est le fait que chacun soit totalement maître de son investissement. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous possédez des crypto-monnaies, vous possédez réellement, entre guillemets, donc ces crypto-monnaies-là et l'argent auquel elles sont associées. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est à l'époque, j'étais un peu impacté par la crise au niveau des banques en 2012, je pense, où tout simplement j'avais de l'argent sur des comptes en banque comme tout le monde. Et j'ai voulu effectuer un retrait relativement important pour me payer une voiture, hein, donc quelque chose de tout à fait légal. J'avais les papiers et autres. Et en fait, j'ai dû batailler ferme avec la banque pour obtenir cet argent pour justement aller payer le véhicule. Et ça m'a vraiment fait me remettre en question vis-à-vis du système bancaire parce que cet argent, c'est mon argent, je l'ai gagné en travaillant. Et le fait de ne pas pouvoir y avoir accès, alors qu'en plus ici j'avais un justificatif, hein, je veux dire, je n'allais pas acheter des armes ou de la drogue, hein, j'avais une facture avec un véhicule, et ça m'a vraiment me fait me remettre en question. Et ici, le fait par exemple de posséder du Bitcoin et donc indirectement son équivalent en euros, vous êtes réellement possesseur de ce Bitcoin. Il n'y a personne qui peut vous empêcher de l'utiliser, de le dépenser, de l'envoyer à une autre personne. Je veux dire, maintenant, j'aurai 10 000 euros et je veux te les envoyer à toi. Si je fais le virement maintenant, dans les 5 minutes, j'ai la banque qui me téléphone en me disant, pourquoi est-ce que vous faites un virement de 10 000 euros à Roxane? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, etc., etc. Ça, c'est le genre d'information qui ne regarde pas la banque, ce que je fais de mon argent, si j'ai envie de te l'envoyer, si j'ai pas envie de te l'envoyer ou autre. Et ça m'a fait vraiment me remettre en question vis-à-vis du système classique. Alors, est-ce que demain, on prend toujours cet exemple-là, mais est-ce que demain, le Bitcoin va servir à payer sa baguette de pain? Là, il faut arrêter je pense qu'il faut arrêter le rêve, le fantasme. On n'utilisera pas le Bitcoin, ou en tout cas pas directement sous cette forme actuelle, pour payer sa baguette de pain, pour aller faire son plein, enfin le plein de sa voiture ou autre. Par contre, pour réaliser des opérations entre guillemets plus importantes, comme par exemple éventuellement l'achat d'un véhicule, l'achat d'une maison. Ça peut avoir énormément d'intérêt d'utiliser la technologie du Bitcoin et de la blockchain qui en découle. Par contre, c'est sûr qu'aller payer tous les jours sa baguette de pain avec ça n'a pas d'intérêt.
Et pourquoi ça n'aurait pas d'intérêt?
Pourquoi est-ce que ça n'aurait pas d'intérêt? En tout cas, moi, à mon niveau, je trouve, en fait, c'est un peu l'image comme on donne souvent d'un bazooka pour tuer une mouche. L'utilité, par exemple, du Bitcoin, elle est, selon moi, bien plus importante et a des propriétés très, très intéressantes, comme le fait, comment dire, de pouvoir faire des échanges directement entre personnes sans passer par un tiers de confiance, le fait de pouvoir stocker des informations qui ne est-ce pas être modifié, etc., etc. Je trouve que ce serait dommage d'utiliser le Bitcoin pour payer sa baguette tous les jours, alors que, par exemple, on pourrait avoir une autre crypto-monnaie, par exemple, dont l'utilité première, ce serait justement d'être utilisée comme un moyen de paiement. Et maintenant, ça, c'est mon avis, hein. Il y a des personnes qui vous diraient, qui vont probablement vous dire que ce serait très intéressant. À mon niveau actuellement, dans l'état actuel, je trouve que ce serait un peu dommage. Maintenant, voilà, chacun a son avis là-dessus.
D'accord, mais comme tu dis, il pourrait y avoir d'autres crypto-monnaies pour un usage quotidien. Est-ce que tu as des exemples de crypto-monnaies là actuellement qui pourraient faire le job?
Il y en a. Par exemple, je pense qu'on a une crypto-monnaie qui s'appelle le Stellar, qui est une crypto-monnaie qui a été développée justement dans le but d'être échangée directement entre personnes. Donc là, c'est vraiment le but de cette crypto-monnaie-là, c'est vraiment et simplement uniquement de faire du transfert d'argent. Donc aller payer sa baguette, par exemple, en Stellar serait pour moi bien plus intéressant que de la payer en Bitcoin. Et un autre exemple, ce serait par exemple de se dire si demain je voulais vendre ma maison, par exemple, à quelqu'un directement, il existe par exemple des crypto-monnaies qui permettent de faire ça aussi beaucoup plus facilement. Je veux dire, plusieurs crypto-monnaies ont des, comment dire, des intérêts à réaliser plutôt certaines opérations plutôt que d'autres.
Mais donc, en fait, peut-être que dans le futur, on aurait un portefeuille avec différents types de crypto-monnaies pour différents usages.
Exactement. Ça, là, par contre, là, je suis totalement d'accord avec cette vision des choses et ça me paraît être, en tout cas à l'heure actuelle, ça me paraît être la meilleure solution.
Et comment est-ce que tu penses que les gens peuvent rentrer? Tu vois, les gens qui n'ont, bah là, nos auditeurs, peut-être ceux qui n'ont jamais acheté de crypto-monnaie, toi, tu dis que tu es rentré, enfin, tu n'as pas voulu déposer de l'argent sur des plateformes d'échange, tu as commencé à miner. Et qu'est-ce que tu conseillerais pour les gens là, tous les novices qui se disent ouais, j'ai quand même envie d'avoir une crypto. Est-ce que c'est bien de rentrer dans du Bitcoin? Est-ce que c'est bien de rentrer dans une autre crypto-monnaie? Est-ce qu'il faut commencer par le minage? Est-ce qu'on peut maintenant, 5 ans plus tard, après ce que toi tu as fait, faire confiance aux plateformes d'échange?
Alors oui, honnêtement, donc voilà, si j'étais maintenant une personne qui n'y connaît pas, enfin qui ne s'y connaît pas par exemple en informatique, je ne lui conseille vraiment pas d'aller vers le minage, en tout cas en première approche, parce que ce serait se mettre des problèmes supplémentaires là où il n'y en a pas besoin. Il faut savoir que justement en 5 ans, les plateformes qui permettent justement d'accéder aux crypto-monnaies ont énormément, mais énormément évolué. Je veux dire, en 2016, c'était pas compliqué, mais c'était plus compliqué d'acheter des crypto-monnaies. Maintenant, les plateformes sont vraiment devenues très très faciles d'accès et en quelques minutes, il est maintenant possible de créer un compte à l'aide d'une adresse email et d'un mot de passe, hein, quelque chose de très simple, et d'acheter ses premières crypto-monnaies, soit directement au moyen d'une carte bancaire, soit au moyen d'un virement bancaire. Au niveau des plateformes, justement, au départ, on était sur des plateformes qui étaient situées dans des pays un peu, entre guillemets, un peu étranges, borderline, quoi, je veux dire. Maintenant, on a des plateformes qui ont des pieds à terre en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, donc quelque chose qui est, entre guillemets, pour une personne classique, qui est beaucoup plus rassurant. Et là aussi, au départ, ben, de nouveau, si on avait un problème, on n'avait qu'un support en anglais et il fallait se débrouiller en anglais. Maintenant, de nos jours, on a même des supports en français. Vous pouvez avoir réellement une personne au bout du fil, là vous n'allez pas discuter justement avec un robot. Donc je veux dire que maintenant, acheter des crypto-monnaies et même acheter ses premières crypto-monnaies, c'est devenu très simple et très facile d'accès. Et mon meilleur conseil, en tout cas pour une personne qui décide de se lancer, c'est justement d'aller vers la première crypto-monnaie la plus facile d'accès pour au moins voir comment ça fonctionne. Et donc, ce serait directement de se diriger vers du Bitcoin qui est la plus répandue et qu'on trouve un peu partout, plutôt que de vouloir absolument commencer par un truc un peu obscur qui demande des systèmes supplémentaires et autres.
Mais est-ce que le Bitcoin n'est pas un peu trop cher là?
Ça dépendra du moment où on sort l'interview, mais
Oui,
au niveau du prix, ben, c'est toujours. Après, ça dépend ce qu'on veut en faire. Si le but c'est de l'acheter, par exemple, et de le garder pendant 5 ans et de pas se prendre la tête, je dirais que acheter pour une centaine d'euros de Bitcoin maintenant ou à un autre moment, ce sera identiquement pareil. Pour une personne classique. Par contre, si on est une personne qui se dit, tiens, j'ai envie d'en acheter, mais en même temps, j'ai envie de réaliser un peu de trading, j'ai envie de m'essayer un peu à ça, effectivement, là, il est bon de regarder le moment le plus opportun, j'ai envie de dire, pour acheter de la crypto-monnaie. Ce qu'il faut savoir, c'est que, parce que ça, c'est souvent une erreur que les gens font, on va dire que maintenant, pour faire simple, on va dire que le Bitcoin est à 18 000 euros. Ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah ouais, mais si demain je dois acheter du Bitcoin, je dois dépenser 18 000 euros, c'est beaucoup trop cher, j'ai pas les moyens d'en acheter. Et alors ça, c'est une fausse idée que beaucoup de gens ont. Il faut savoir que du Bitcoin, on peut en acheter pour 5 euros si on veut. Alors, si on achète pour 5 euros, on aura une fraction infime de Bitcoin, mais il ne faut pas imaginer qu'on a besoin de dépenser 18 000 euros pour avoir un Bitcoin. Si vous dépensez 18 000 euros, vous aurez un Bitcoin entier, hein, une unité de Bitcoin, mais vous pouvez en acheter pour 5, 10, 50 euros. Il ne faut pas imaginer qu'il faut directement dépenser directement les grosses sommes.
Exactement, c'est à ça que je voulais en venir, c'était à acheter donc des satoshis. Ce sont des fractions de Bitcoin. Et alors, je voulais, c'est vrai qu'on n'a pas abordé du tout les masternodes, alors que tu en parles quand même sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que c'est ça, un masternode?
Alors, en faisant de nouveau, hein, c'est un domaine qui est très complexe, mais en faisant simple, un masternode, c'est la même chose que les machines de minage, hein, en gros, sauf que ça se fait automatiquement, enfin ça se fait en ligne. Donc, le minage, vous avez besoin d'avoir une machine physique, un ordinateur présent chez vous ou dans un hangar, que sais-je, mais vous avez vraiment une machine qui existe. Un masternode, c'est en simplifiant, c'est exactement la même chose, mais de manière virtuelle. Ce qui fait que ça offre des avantages, comme par exemple, bah, vous n'avez pas la facture électrique qui tombe, ni la chaleur, par exemple, mais ça a également des inconvénients. C'est extrêmement compliqué à configurer et à monter. Il faut avoir des connaissances, entre guillemets, en langage de programmation. Donc là, on n'est plus du tout sur quelque chose d'accessible avec un petit PC dans son coin. Il faut vraiment s'y connaître et ça demande pas mal de connaissances techniques, mais également de connaissances pratiques sur le fonctionnement des crypto-monnaies, parce que ce n'est pas aussi simple que ça.
Et est-ce que des personnes novices pourraient avoir accès à des masternodes?
Alors, de nouveau, ben, les choses ont bien évolué. Donc, il y a 4 ans, la personne novice aurait voulu se lancer, elle aurait dû tout faire elle-même. Donc, ça aurait été très compliqué. De nos jours, on a des sociétés qui se sont développées, des sociétés spécialisées notamment dans la gestion de masternodes pour les particuliers. Et en fait, ces sociétés, entre guillemets, elles vont s'occuper de toute la partie compliquée et difficile, hein. C'est elles qui vont s'occuper de créer le masternode, de le gérer pour vous, de le surveiller, de s'en occuper, je vais dire. Et en contrepartie, celle-ci, donc vous allez acheter, entre guillemets, une part ou la totalité de ce masternode à la société. La société vous le gère. Et en contrepartie, sur les récompenses qui vous sont versées, la société, elle, va prélever un pourcentage plus ou moins important, parce que bah, forcément, eux, de leur côté, ils effectuent un travail et que vu que tout travail mérite salaire, c'est une façon pour eux de se rémunérer et de gagner de l'argent. Donc en se occupant et en gérant les machines pour leurs clients.
Donc ça, c'est intéressant aussi de savoir qu'il y a des sociétés de minage et des sociétés de masternodes dans lesquelles les particuliers peuvent investir.
Exactement, donc il y a vraiment des sociétés qui se sont spécialisées. Tout ce qu'on a parlé avant, il faut savoir que typiquement, bah, vous vivez dans un appartement 10 mètres carrés, vous n'avez pas la place, donc vous ne saurez pas gérer ni la chauffe, ni bah, le bruit, parce que des machines qui tournent, ça fait effectivement aussi du bruit. On a effectivement des machines enfin, des sociétés qui se sont spécialisées pour gérer donc soit le minage, le masternode et autres.
Et du coup, est-ce que tu conseilles aux gens plutôt, pour mettre un premier pied dans le monde des crypto-monnaies, d'aussi explorer ces deux pistes?
Je dirais dans un premier temps non, parce que c'est directement un côté un peu plus compliqué et ça va demander un peu plus de préparation. Donc vraiment la première chose à faire selon moi pour une personne qui débuterait vraiment dans l'univers des crypto-monnaies, c'est de se renseigner sur comment est-ce que ça fonctionne, comment gérer un portefeuille, comment gérer de faire une transaction, donc envoyer entre guillemets des crypto-monnaies à quelqu'un et en recevoir. Ça c'est vraiment la base, parce que toutes ces notions de base seront nécessaires si vous décidez de vous lancer dans le minage ou dans des masternodes via des sociétés spécialisées, parce que justement, on va vous demander de réaliser de votre côté certaines actions qui ne sont pas compliquées mais qu'il faut connaître. Et si vous ne les connaissez pas, vous allez patauger, vous n'y arriverez pas. Donc, commencez par les bases et puis seulement se diriger vers ce type d'investissement, comme toujours pour se diversifier, quoi.
Je pense au fait, ben voilà, que c'est un peu compliqué. Est-ce que toi, durant ces 4-5 dernières années, tu as fait des grosses erreurs là-dessus?
Oui, honnêtement, oui, j'ai commis de grosses erreurs à mon niveau, aussi bien sur le plan, je vais dire, vraiment des machines en elles-mêmes où j'ai monté des trucs à l'envers et autres, et donc j'ai fait des bêtises à ce niveau-là, mais également sur, entre guillemets, la stratégie que j'ai appliquée. Je veux dire, j'ai développé une stratégie à mon niveau pour le minage des crypto-monnaies, et il y a sur certaines crypto-monnaies où j'ai fait des mauvais choix. C'est aussi bien de reconnaître ses erreurs. C'est vrai que les crypto-monnaies peuvent vous faire gagner de l'argent, ça il faut pas se le cacher, mais elles peuvent également vous en faire perdre, tout simplement si vous faites pas ce qu'il faut, quoi.
D'accord. Et quand tu dis que tu as monté des rigs à l'envers, enfin des ordinateurs à l'envers, etc., il n'y a jamais rien qui a flambé, parce que maintenant que j'y pense, si tu as beaucoup d'ordinateurs et qu'il y a de la chaleur en permanence, ça n'a jamais pris feu?
Non, 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 j'ai jamais eu de départ d'incendie. Il faut savoir que de ce côté-là, je surveille énormément. Hein, donc j'ai des détecteurs d'incendie et autres pour surveiller tout ça. J'ai jamais eu de feu parce qu'il faut savoir que l'électricité qui est envoyée sur ce genre de machine est quand même pas bien élevée au niveau des voltages et autres. Donc un départ de feu, ce serait très très compliqué. Par contre, des composants qui s'usent, qui rendent l'âme, parce que forcément, comme toute machine, hein, quand ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis plusieurs années, bah, ça vieillit. Ça, des composants qui tombent en panne, etc., qu'il faut remplacer, ça oui, mais des grosses catastrophes comme un incendie ou autre, non.
Bah heureusement, on touche du bois.
Pareil.
Et dis-moi, donc aujourd'hui, le Bitcoin est à 18 000 dollars, mais il est retombé très, très bas. Et la dernière fois qu'on a fait une interview, probablement qu'il était aussi très, très haut. Donc, c'était donc en 2017, ça a atteint des sommets. Entre les deux, il n'y a pas eu des moments où tu as été démotivé?
Alors, démotivé, non, parce que justement, je pense que c'est le meilleur moment, en tout cas, pour apprendre. C'était justement dans ces périodes très calmes, justement, où, entre guillemets, on n'a que ça, enfin, que ça à faire, que de patienter et justement de se renseigner, de découvrir de nouvelles choses, de s'instruire. Donc, ça m'a permis d'apprendre, justement, pendant ces périodes de calme, beaucoup de choses, et justement pour ne pas commettre d'erreurs quand on a ces grosses périodes de hausse. Maintenant, c'est vrai que j'ai quand même trouvé le temps long, et c'est vrai que là, voir les mouvements que le Bitcoin nous fait actuellement, ça donne un peu de baume au cœur, et surtout, ça permet de montrer à beaucoup de personnes que ce que l'on expliquait depuis beaucoup d'années, où on nous disait non, c'est mort, c'est terminé, ça ne sert plus à rien, ça va disparaître et autres, ben là, ça permet un peu de donner tort à ces personnes, et ça, je dois dire que ce côté-là, ça fait un peu plaisir aussi.
Eh ben, je crois qu'on va bientôt clôturer, sauf si tu as encore quelques petites anecdotes croustillantes à me raconter, parce que je suis sûre que tu en as d'autres, hein. En 5 ans, j'ai vu passer une carte à collectionner avec ta tête, et je me suis dit que ça, c'était quand même un moment. Allez, c'est pas rien de voir sa tête sur une carte à collectionner.
Effectivement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as d'autres anecdotes un peu dans ce style-là? Parce que
Ah
c'est
ben écoute,
chouette.
au niveau de la carte à collectionner, c'est totalement dingue. Mais en fait, il y a une personne qui m'a un jour contacté sur Twitter, et qui m'a dit, donc faut savoir que moi, à mon niveau sur YouTube, à l'époque, je faisais absolument tout seul. Donc j'étais aussi bien monteur, réalisateur, acteur, je m'occupais des lumières, je m'occupais du son, je faisais absolument tout seul. Et notamment une partie que je n'aimais vraiment pas parce que je suis totalement nul là-dedans, c'était toute la partie dessin des miniatures. Parce que je suis pas du tout graphiste, j'y connais rien, et mes miniatures à l'époque étaient vraiment vraiment pas jolies. Et en fait, il y a une personne qui m'a contacté et qui m'a dit tout simplement, ouais, regarde, j'ai fait une miniature pour ta vidéo, et notamment il a fait aussi mon logo, je vais dire. Et en fait, j'ai trouvé qu'il faisait de l'excellent travail, et cette personne-là m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, je pourrais réaliser tes miniatures. Et donc, je lui dis que j'étais bien sûr intéressé parce que c'est quelque chose que moi, j'aimais pas faire et qui était vraiment pas top. Et en fait, en discutant avec la personne, lui m'a dit que c'était une personne qui était justement fan de cartes à collectionner et qu'il avait justement lancé des cartes à collectionner sur l'univers des crypto-monnaies. Donc, vous aviez une carte à collectionner pour le Bitcoin, une autre pour l'Ethereum, une sur, par exemple, Satoshi Nakamoto, qui est l'inventeur du Bitcoin, etc., etc. Et en fait, il m'a un jour, jour, il me contacte, il me dit, écoute, est-ce que ça te dirait de faire partie de mon jeu de jeu de cartes à collectionner? Et je lui dis tout de suite oui, parce que moi, je suis aussi, entre guillemets, fan de cartes à collectionner, hein. J'ai grandi avec la génération Pokémon, où justement, on collectionnait les cartes aussi Might and Magic. J'étais passionné. Et donc, je lui avais déjà au départ pris quelques cartes classiques. Et c'est vrai que quand il m'a proposé d'avoir ma propre carte avec mon logo et donc la petite description qui va avec, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Et c'est vrai que maintenant, voilà, je fais partie d'un jeu de cartes à collectionner, au même titre que l'inventeur du Bitcoin, l'inventeur du Litecoin, donc à côté de, je veux dire, entre guillemets, des grosses célébrités de l'univers crypto, quoi.
Est-ce que tu aurais pu imaginer un jour que rentrer, mettre un pied dans le monde des crypto-monnaies allait t'amener là?
Non, jamais. Ça, honnêtement, déjà, avoir une aussi grosse communauté sur YouTube, je m'y attendais pas du tout. Mais alors, avoir un jeu de cartes, enfin, un jeu de cartes où il y a notre tête dessus, ça, j'aurais jamais cru, parce que je sais même pas que ça, enfin, j'aurais jamais imaginé que quelqu'un aurait pu penser à ça. Et je trouve que c'est une excellente idée. Pour l'aspect purement collectionneur, hein, donc si vous n'êtes pas collectionneur, ça n'a pas d'intérêt. Mais moi, qui suis collectionneur en dehors de ça, rien que pour le côté collection, c'est vrai que c'est dingue d'avoir toutes ces petites cartes avec à chaque fois. En plus, il y a des petites infos sur si c'est une personne, il y a des infos sur la personne. Si c'est une crypto-monnaie, il y a des infos sur la crypto-monnaie. Donc c'est vraiment vraiment bien fait et c'est vraiment très très intéressant.
Finalement, est-ce qu'on peut dire que les crypto-monnaies ont changé ta vie?
Ah oui, clairement, aussi bien voilà sur l'aspect purement des crypto-monnaies, puisque maintenant j'ai vraiment ma vie qui tourne autour de l'univers crypto, mais également justement avec la communauté, le fait d'avoir une chaîne YouTube. En fait, j'ai vraiment, malgré que j'ai toujours ma vie, entre guillemets, ma vie d'avant, j'ai maintenant à côté une deuxième vie où je suis à mi-temps, entre guillemets, dans l'univers des crypto-monnaies et dans l'univers YouTube avec tout ce qui a le côté création de vidéos, gestion de la communauté, répondre aux questions des gens, répondre aux remerciements, etc., etc.
Eh bien, Monsieur TK, je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de chance pour le futur. Je suis certaine que tu vas aussi aller to the moon, comme on dit dans le jargon des crypto-monnaies. Et en tout cas, un grand merci d'avoir accepté cette interview et à très bientôt.
Merci à toi et bonne journée.
Cet épisode touche à sa fin, alors tout d'abord, un très grand merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet entretien, n'oubliez pas de soutenir ce podcast en lui mettant 5 étoiles ou en vous y abonnant. Vous pouvez aussi me laisser un petit message avec votre avis ou même vos questions s'il y en a. Sur ce, je vous retrouve en début de mois prochain pour un nouvel épisode en compagnie de Mathieu Jamard, plus connu sous le pseudo de Star & Sen et qui est trader professionnel. Et avant de totalement se quitter, n'oubliez pas vos clés, pas vos bitcoins.